France Inter.
Formée au conservatoire dans la classe de Catherine Yégel, la comédienne Clotilde aime à incarner des rôles marquants au théâtre, à la télévision et au cinéma. Dirigée par Raoul Ruiz, Luc Bondy, Philippe Garrel, Alix Delaporte ou encore Christophe Honoré, l'actrice interprète avec maestria l'Hamlet de Shakespeare, remis au goût du jour avec la mise en abîme de la violence patriarcale par la metteuse en scène brésilienne Christiane Jataï. La création en français comporte en quelques passages en portugais surtitrés, mêle musique, vidéo, chant et sur impression de voix et de murmures évoquant l'espace mental des personnages. Dès le début, le père assassiné d'Hamlet apparaît en géant sur un écran voile et l'on est frappé par la puissance de la manifestation du spectre. On aimerait pouvoir converser avec nos morts à cette échelle, mais le fantôme n'est pas là pour ça. Il a été empoisonné par son frère qui s'est, quelques mois plus tard, fiancé à sa femme, la mère d'Hamlet donc. Le but d'Hamlet est évidemment de révéler l'assassinat. En attendant, il erre avec un désespoir fébrile entre les cyniques et les traîtres, dont on peut exclure la noble Ophélie, pour qui son cœur brûle. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Clotilde M.
Bonsoir.
Normalement, à cette heure-ci, vous êtes sur scène.
Oui, mais nous sommes lundi, c'est relâche.
À quoi avez-vous le plus pensé en ce jour de relâche?
À relâcher, à ne pas penser d'ailleurs, oui. Je crois que j'ai pensé à faire le vide. Je suis allée nager et c'est un bon moyen de lâcher le mental. Parce que là, il est très pris. Le physique aussi, hein, d'ailleurs.
Dans quel état vous sortez de ce genre de spectacle très physique?
Absolument épuisé. Épuisé, vidé et toujours en lutte parce que j'ai pas eu toutes les réponses. Alors, il faut y retourner le lendemain.
Vous avez des questions?
On n'aura jamais les réponses.
C'est vrai?
Bah, avec Hamlet, non, c'est un puits de questions sans réponse, ouais. Je suis face aux questions du passé, au ressassement, à l'obsession, et à trouver à l'intérieur de ça comment on peut modifier le cours des choses et du passé. Pas facile, modifier le passé.
C'est pas facile, mais ça me rappelle une interview que vous aviez faite, Clotilde M, où vous disiez que même votre passé était imprévisible. Et je comprends pas le sens de cette phrase.
Non, c'était... on ne sait jamais ce que le passé vous réserve. Et c'est pas de moi, hein. Je crois que c'est de... Alors, je ne sais plus laquelle, Sagan ou Duras. Je crois que c'est Sagan. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve. C'est en fait qu'il revient quand vous n'avez pas fait face... Il peut revenir, se manifester, ressurgir. C'est le surgissement du passé traumatique, ou pas forcément traumatique d'ailleurs, mais là, il y a surgissement du passé chez Hamlet. Il y a en tout cas une boucle dans laquelle la dramaturgie est construite comme ça. C'est-à-dire une boucle dans laquelle Hamlet se retrouve. Et elle a une histoire, c'est la seule qui est à sa portée et qui se raconte encore et qui l'obsède. Et elle essaye de changer, de modifier le cours des choses. Et certaines choses seront modifiées d'ailleurs par rapport à la pièce originale. C'est-à-dire que Hamlet demande pardon, ce qui est quand même très rare, ce qui n'arrive pas d'ailleurs dans la pièce. Demande pardon à Ophélie et ça modifie les choses. Et Ophélie, c'est celle qui opère aussi la plus grande révolution dans la pièce. Elle ne va pas mourir, elle ne va pas se conformer à l'idée qu'on a d'une Ophélie qui est fantasmée et fantasmante parce qu'elle est morte et muette. Non, elle va vivre.
Alors ça, on va y revenir puisqu'on va consacrer toute l'heure qui vient à Hamlet, mais je voudrais vous poser une question justement sur ce passé, Clotilde M. Adolescente, vous alliez assister en douce aux audiences du tribunal de Troyes où votre père était greffier et vous vous passionniez là-bas pour la face sombre de l'humanité. J'aimerais savoir si vous avez plus appris sur la sombreur humaine dans le réel ou par le théâtre.
Je crois par le réel, ouais. Ouais, par le réel. Cette espèce de surgissement de l'effroi du réel de ce que de cet hyper réalisme qu'on cherche aussi au théâtre en tout cas dans le travail avec Christiane Jataï et qui m'intéresse et qui n'est pas du naturalisme en fait qui est vraiment le danger, le risque du réel.
Vous accommodez facilement du réel ?
Pas toujours. Mais ouais, je fais en sorte qu'il soit le plus... Enfin, d'être le plus aligné possible, en tout cas.
Fini l'aventure, l'inattendu. Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos aimants perdus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus. Où sont nos mouvements perdus? Nos gestes tendres disparus.
On s'aime et on ne s'aime plus. Fini joli geste, entendu.
Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos mouvements perdus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus. Portés par le vent, la vie lentement nous laisse maintenant. S'aller sans élan avec ce mélange. L'armée sentiment coulant ruisselant. Porté par le vent. Où sont nos simples imprévus? Nos silhouettes sur l'avenue.
On court et ça ne marche plus. Tout est confondu.
Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos simples imprévus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus. Partez par le vent. La vie lentement nous laisse maintenant. S'aller sans élan avec ce mélange. Sentiment coulant ruissement, porté par le vent, porté par le vent. La vie lentement nous laisse maintenant s'aller sans élan avec ce mélange. La vie sentiment coulant ruissement, porté par le vent.
Gaëtan Roussel et Marguerite Thiam, Le sais-tu?
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Clotilde M, vous êtes en ce moment dans Hamlet d'après William Shakespeare, mise en scène par Christiane Jataï. Et c'est sans doute la première fois que Hamlet se fait une omelette sur scène et la mange. C'est évidemment, j'imagine, un gag sonore.
Bah, vous l'avez eu, bravo.
Merci, écoutez, je suis une fine lame pour ce qui est des blagues potaches.
Alors pour ouais, ceux qui... Et j'ai compris comment la cuire parfaitement. J'ai pas le temps de la manger, mais j'ai le temps de
bien
la
cuire. Ah, vous la mangez un peu quand même.
Mais je la mange, ouais.
Un petit peu.
J'essaie de manger tout comme un peu une mission, quoi. Mais Christiane m'a dit, t'es pas obligée, en fait.
Qu'est-ce que vous faites à manger d'autre
sur scène? Je voulais pas gâcher, quoi.
Vous faites d'autres choses à manger, les personnages préparent à manger sur
Gertrude,
scène.
Gertrude...
On sent les odeurs dans le public.
Oui. Gertrude, le personnage de la mère, cuit des oignons. Enfin, ouais. La première fois, elle me sert des oignons pas cuits. Ah imbouffable.
Oui. Oui, c'est pour ça que vous ne les mangez pas.
Voilà, c'est pas une relation très... C'est un peu une relation toxique qui s'annonce avec les oignons pas cuits.
Non, mais quelqu'un qui vous fait des oignons crus, déjà, c'est une relation toxique.
Voilà.
Ok, j'enchaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Christiane Jataï, elle est née à Rio, elle est artiste associée à l'Odéon Théâtre de l'Europe depuis 2016. Elle a reçu un Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2022 et elle est aussi artiste associée au 104 à Paris, au Schauspielhaus de Zurich, à l'Art Emerson de Boston et au Piccolo Teatro di Milano, donc ça veut dire qu'elle est plusieurs personnes en même temps. Elle avait déjà adapté Shakespeare en 2016, Macbeth devenant La Forêt qui marche, mais aussi Homère, Renoir et Lars von Trier. Comment s'est passée votre rencontre, Clotilde M, autour du projet d'Hamlet ? Vous aviez déjà joué dans une adaptation du Roi Lear. Quel est votre rapport avec Hamlet et comment s'est passée cette rencontre ?
J'ai une rencontre bien plus forte avec Christiane Jataï qu'avec Hamlet. J'ai jamais été très fascinée par Hamlet. Je ne suis pas du tout spécialiste, ni shakespeareologue, ni voilà, ni jamais été. J'ai vu des mises en scène d'Hamlet. Je me souviens avoir entendu beaucoup parlé de la mise en scène de Patrice Chéreau, d'Hamlet. J'ai travaillé avec un des interprètes d'Hamlet, et c'est pas un super souvenir. Donc voilà, Hamlet n'était pas forcément... voilà, c'est vraiment la proposition de Christiane à travers cette pièce qui m'a plu, qui m'a enfin, ravie, et notre rencontre. On a parlé rapidement de fantômes. Elle était à Rio, j'étais dans ma maison en Lorraine, et... les décors étaient très différents, on s'est vu à travers l'écran de l'ordinateur. Et j'ai rapidement parlé de mon fantôme résistant, qui est à la fois un fantôme qui résiste et qui a été résistant pendant la guerre. Et...
Vous voulez dire un mot sur ce fantôme ?
Donc, voilà. Non, mais après je m'interrogeais sur cette idée de fantôme résistant. Pourquoi les fantômes restent ? Parce qu'ils ont des choses à demander et ils ont une sorte de réhabilitation à obtenir. Et le père... dans Hamlet, c'est ça, il reste un fantôme résistant. On a parlé de l'idée du fantôme résistant, de nos fantômes, et c'était... oui, il y a eu vraiment une rencontre à travers un écran qui a été assez forte. Et puis, ça s'est fait en quelques temps, et je savais qu'en rentrant dans le travail avec elle, je faisais aussi partie d'une œuvre. Elle construit une œuvre, et c'est fascinant comme... Elle est arrivée avec un scénario, une mise en scène quand même assez établie au début, parce qu'on n'avait pas non plus tout le temps du monde. Hamlet en 2 mois, c'est pas non plus énorme comme temps. Donc voilà, elle avait la dramaturgie qui est très précise, qui est très très fouillée, très intelligente. Et ensuite, on a construit un système de relations entre nous pour vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est de construire des relations entre les êtres qui sont au plateau et réagir à l'autre. Et ensuite, le texte est arrivé, on en a parlé, on a transformé des choses. La matière était quand même vivante avec une base dramaturgique très forte. Donc c'était une grande artiste. Je suis vraiment très heureuse de cette rencontre.
Lorsque Bal marche en titubant sur la planète, une bête a toujours le ciel dessus la tête, le ciel tout bleu. Et l'acier surplombait son lit, où Damon de la Grande veille avec lui.
On va parler, Clotilde M, du sexe d'Hamlet dans la pièce dont vous interprétez le rôle-titre, mais pour l'introduire, vous voici dans Bâle de Brecht en 2010, mise en scène par François Orsini, pièce dans laquelle vous interprétez le rôle-titre et masculin. Et si François Orsini, vous a donné ce rôle, ce n'était pas pour vous donner un rôle d'homme à une femme, mais parce que c'était vous. Et l'un de vos regrets, je l'ai lu, concerne Patrice Chéreau, qui, avant d'être emporté par la maladie, voulait vous faire jouer Rosalinde, la fille travestie dans « Comme il vous plaira » de Shakespeare. Pourquoi pensez-vous aussi bien vous prêter à l'ambiguïté ?
Je sais pas, j'ai une histoire avec le genre, c'est fou quoi. C'est vraiment... Patrice Chéreau m'avait dit « Tu ne seras jamais autant toi-même qu'en garçon. » Rosalinde se travestit en homme pour éduquer ce qui sera son amoureux, voilà, pour lui apprendre et pour être sûre que ce sera un bon amoureux pour elle. Et il voulait pas aller dans le travestissement. Il disait que c'était j'allais être le plus proche de moi en homme. Là, je suis heureuse parce que quand même, je suis une femme dans Hamlet et il n'est pas question d'androgynie ni de. C'est une femme quoi qui arrive. C'est-à-dire que c'est comme dans Orlando de Virginia Woolf. Elle est c'est une femme Hamlet qui revisite son passé d'homme.
Mais alors,
et qui fait face à ses crimes.
Parce qu'elle est homme, d'abord ? Et elle devient femme ?
Non. Hamlet, c'est un personnage masculin.
Oui.
Donc, mais... il a été homme. On imagine qu'il a été quand même homme pendant 400 ans. Ou même dans toutes les mises en scène.
Donc, c'est tous les Hamlets de tous les
siècles. Tous les Hamlets. Mais même quand, par exemple, c'est marrant parce que Peter Zadek, quand il a fait jouer à Angela Winkler le rôle d'Hamlet, il a dit la même chose qu'Orsoni par rapport à Bâle. Il a dit, c'est pas parce que c'est une femme, mais c'est parce que c'est elle. Et là, c'est vraiment, c'est une femme. C'est-à-dire que, ça change la dramaturgie, ça change la pièce. C'est, elle veut changer les règles d'un système qu'elle n'a pas aidé à construire finalement.
Mais parfois, on se réfère à elle. Les autres personnages parlent d'elle en disant tantôt elle, tantôt lui.
Ah, Claudius résiste. Ah. Pas les autres. Claudius la ramène à son genre
Claudius,
masculin.
Claudius, son beau-père.
Claudius, oui, ramène Hamlet à ce qu'il était parce qu'il ne veut pas du changement. Il veut pas que le changement s'opère. Claudius est du côté du pouvoir, il a le pouvoir, il n'a pas envie que ce soit remis en question. Et c'est tout ce jeu, dès qu'il dit « comment va mon neveu Hamlet ?» Je lui dis « moi je me vois plutôt comme nièce, comment va Hamlet ? Ma foi heureuse ?» Enfin voilà, il arrive à me genrer au féminin uniquement quand il me souhaite, il souhaite ma mort. Il souhaite la mort d'Hamlet. Je ne serais heureux et... Une fois que tu seras morte, parce que tous les fantômes vont se réveiller à cause de toi, il arrive à dire morte à l'unique, le dernier mot qui prononce à Hamlet, ouais.
Clotilde M, c'est vrai que vous avez quelque chose avec le genre, puisque je me souviens qu'il y a très très longtemps, je vous ai reçu dans Remède à la mélancolie, et vous aviez choisi le peintre américain proche de l'art brut, Henri Darger, qui a une œuvre ambiguë avec des petites filles, les Vivian Girls, qui ont des sexes de garçons.
C'est vrai.
Puis il y a des interviews où vous dites que vous n'avez jamais voulu être regardée comme un objet de désir, vous n'avez jamais été la muse de personne, et vous dites même, j'en ai marre d'être des muses.
Je disais ça tôt, hein.
Ouais, bien avant qu'on en parle autant.
Je continue à le dire, bah voilà. C'est ça, c'est... S'émanciper de l'objectification liée pas seulement à nos métiers, hein, liée au fait d'être du genre féminin, oui. C'est un chemin.
Vous avez joué l'année dernière avec le collectif À définir dans un futur proche sorcière d'après Mona Chollet au Théâtre de l'Atelier. Quel est votre rapport au féminisme ou votre définition de ce mot ?
Bah, une lutte pour l'égalité, contre la violence et contre l'injonction à la douceur, toujours, de dire... les choses avec... c'est pour ça que moi j'ai envie de réhabiliter aussi la colère. Elle est saine, elle est salvatrice, elle est nécessaire aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut dépasser le privé et que ce soit vraiment qu'on puisse... On parle de libération de la parole, rien que ça. À un moment, je trouve ça agaçant parce que la parole est prise en fait, elle est dite, elle est... On prend la parole, elle ne se libère pas comme ça d'elle-même en ouvrant avec ses petits bras les fenêtres. Et il faut pouvoir entendre aujourd'hui la nécessité en fait, mais vraiment d'entendre et de sortir de l'intime, du privé, pour que vraiment ça regarde tout le monde, ça regarde une société entière. Et en ça, je sais que vous avez reçu récemment Christine Angot et la puissance de son film et la puissance de la colère avec laquelle, oui, elle met le pied dans la porte pour que cette douceur ne soit... Enfin, qu'on ne renvoie pas toujours... la violence, c'est en face et qu'on ne soit pas là à inverser les rôles et à dire que si les femmes sont en colère, elles ne sont pas audibles, en fait... Parce que il faudrait toujours que qu'on parle ou qu'on s'exprime de la manière que la personne en face ou l'ennemi d'en face veut nous entendre et cette injonction à être entendu d'une manière mesurée, calme, la seule possible en fait, c'est une grande violence, je trouve. C'est une violence de la bourgeoisie le plus souvent, mais pas seulement. Ça renvoie aussi au terme des femmes en colère, en fait, le angry black woman, cette expression qui fait que les femmes ne sont pas entendues, les femmes noires ne sont pas entendues parce qu'elles seraient en colère, et donc ce serait pas audible, et c'est vraiment d'une grande violence, je trouve que c'est inverser totalement la culpabilité, et oui, c'est... Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas à s'excuser d'être féministe et je le dis d'autant plus que j'ai revu Et je le sais, puisque en 2012, quand je suis récompensée d'un César, je m'excuse d'être féministe. On est en 2012. Je dis, je suis pas féministe, mais ce film a été fait avec des femmes à tous les postes de responsabilité, donc c'est un film important. Et je commence cette phrase, c'est dans les coulisses des Césars, après avoir obtenu... Je trouve ça aberrant, je m'en condamne moi-même.
Vous êtes en colère aujourd'hui contre la Clotilde M de l'époque.
Mais bien sûr, parce que je pense que c'était induit par la société dans laquelle nous étions tous, et par ce regard du pouvoir, forcément masculin, qui est de s'excuser, et attention de ne pas faire peur. Et je trouve que oui, c'est... Donc voilà, je suis pas d'accord avec la Clotilde M de 2012.
Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan, I know. You know I'm not gonna stay the night. Home. I just need one reason. I know there's nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. Way too close to read my mind.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
I'm liking the way that you talk to me now. You're doing, don't look in my eyes. Oh, that one time when I said what I said when the run was over. Only been two times that we've done what we did when I put it on ya, when I put it on ya. Looking for some reason, tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night.
You're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
In my feelings, I'm feeling my sorrow. I want you today, I want you tomorrow. I want you to stay, I'm not gonna borrow. I steal you forever, I take you Morocco. Me and you together, you're driving me loco. I wanna be with you, I don't wanna be solo. J-House, aka Elizolo. When you call me, I'll be there coming pronto. But I've kept it G, I never spent a cobble. Make a splash and a dash, you know that's the motto. She's driving me, I'm inside her motto. Your usna feels like I just won the lotto. Touching me, she feeling my muscle. I spend time with you, I'm pausing my hustle. Pour something in my cup, me and you are a couple. Bad man, but sometimes I wanna cuddle.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
Georgia Smith et J.S. Feelings.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Clotilde M, nous évoquons votre rôle dans Hamlet, mise en scène par Christiane Jataï. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment est-ce qu'elle s'est approprié le texte de Shakespeare. Qu'est-ce qu'elle a ajouté, qu'est-ce qu'elle a écrit? Je sais qu'il y a des textes d'autres auteurs aussi dedans.
Oui, il y a des textes d'Einar Müller et de Virginia Woolf, notamment dans le monologue de fin, et aussi dans La bouche d'Ophélie. Et sinon, c'est une traduction de Dorothée Zumstein, à laquelle aussi elle a ajouté des textes écrits par elle-même. Donc voilà, et la dramaturgie est remaniée aussi. Enfin, le texte, c'est pas la construction narrative de Shakespeare. Il y a aussi une sorte de patchwork, de collage de scènes et de par exemple une disparition de Laërte qu'on voit quand même encore en vidéo seulement, où Horatio et le public, l'ami. Donc c'est pour ça que le premier monologue est vraiment une confession, un partage de ce que vit Hamlet et de ce qu'elle ressent. Et jusqu'à la fin, Horatio et le public, donc est censé être mon ami.
On parle toujours de la modernité de Shakespeare. Est-ce qu'il y a justement des choses chez lui qui sont désuètes, qu'elle a adaptées pour aujourd'hui?
Parfois, je sais que les hauts... Les interjections, ah oui, comme ça, elle dit « Ah non, enlève ça, tu peux enlever !» Genre, funeste précipitation, c'était « Oh, funeste précipitation !» Elle dit « Non, on enlève !» Enfin voilà, il y a des libertés, oui, où on enlève. Mais désuète, non. Enfin, c'est tellement incroyable de quand même de modernité, de pouvoir entendre aujourd'hui. C'est plus de 85% du texte de Shakespeare, quand même, la pièce. Donc on entend absolument... tout la question du pouvoir à l'œuvre, les rapports de domination, de cette violence intégrée dont on essaie de se départir et de s'arracher du corps, elle est encore aujourd'hui tellement, tellement vivace, quoi.
La fameuse réplique être ou ne pas être, vous la dites, mais pas intégralement, à 3 reprises et jamais de façon classique. J'imagine que c'était pas aisé de prononcer des mots si connus de façon neuve.
Non, ce tube n'était pas aisé, même d'ailleurs au début. Je disais, on va pas dire ça quand même. Enfin, c'est-à-dire que ça, on va. Elle m'a dit, non, on peut pas faire l'économie. C'est non, tu vas le dire. Ah bon, je vais vraiment dire cette phrase. Parce que ce qui est incroyable, c'est quand on parle d'Hamlet, même quelqu'un qui n'a pas lu Hamlet vous sort cette phrase-là. Et toujours associée au crâne. Alors que dans la pièce, c'est pas du tout associé au crâne. Il trouve la scène avec Horatio quand il parle de Yorick et la scène du crâne quand il trouve le crâne dans le cimetière. Il n'y a pas du tout ce monologue, en fait. Donc c'est vraiment un malentendu total. Être ne pas être n'est pas avec le crâne dans la main. Donc on montre cette image pour l'assumer à la fin. Mais c'est pour ça que je le coupe assez vite en disant non, rien de tout ça, on passe à autre chose. Mais après, oui, je le dis de plusieurs manières. Donc il y a la confession en premier, ensuite avec de la rage, parce que c'est agir ou ne pas agir, quoi. C'est être dans la lutte ou pas. C'est renoncer ou continuer, se battre ou arrêter. Donc, c'est des questions totalement présentes et contemporaines.
It's Rocky's greatest challenge, to save his honor, his marriage, and his manhood against his most devastating and dangerous opponent.
Can I bust you up?
Go for it. Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith, Carl Weathers, Burt Young, and introducing Mr. T. Rocky III, an American tradition.
Extrait de Rocky III de Sylvester Stallone qui a inspiré la nouvelle d'Emmanuel Bernheim, portée à la scène par Fabien Gorgeard, le spectacle Stallone que vous jouiez, Clotilde M, en 2019, pour lequel vous avez reçu un Molière. Et je voulais l'évoquer parce que vous êtes dedans très physique, comme dans Hamlet, où vous dansez, où vous chantez. J'aimerais qu'on parle du corps. Quand vous êtes arrivée à Paris, à 18 ans, vous avez fait de la boxe.
Oui, j'ai fait de la boxe avec Dominique Valera.
Ouais. Qui est un karatéka.
Qui était un karatéka, exactement. Mais faisait de la boxe, une sorte de mélange d'art martial et de boxe. Et, Il m'appelait la libellule, je touchais pas le sol. Donc c'était un problème quand même. Après, ça m'a aidé à toucher.
Comment ça, vous touchiez pas le sol?
Bah, j'étais trop en l'air, quoi. J'étais trop en l'air. C'était une libellule, alors que la boxe, il faut. Enfin, voilà, ça m'a aidé à être terrien. Catherine Yégel, ensuite, m'a aidé à être terrienne d'une autre manière. Mais. Ouais, c'était. C'est marrant de réentendre Stallone. J'ai commencé à écouter l'affaire sensible sur Stallone. il me manque un peu comme un petit totem. Mais. Mais c'est marrant parce que c'était quand même l'histoire de Stallone, de la pièce, enfin, du livre adapté, qu'on a adapté au théâtre. Parle de ça, d'une femme qui ne trouve plus quand même une raison d'agir ou de continuer, et qui trouve dans la vision de Rocky III une sorte d'épiphanie, et ça va la réveiller pour continuer à se battre, reprendre ses études, rencontrer les... Voilà, ça va la sauver d'une certaine manière, mais j'ai l'impression que je commence à me l'être aussi un petit peu de la même manière, c'est-à-dire en étant spectatrice et assister à quelque chose qui me met en action, qui me pousse à agir. Et ils le savent pas forcément, les metteurs en scène des deux spectacles, pas du tout d'ailleurs, parce que moi, j'en ai pris conscience récemment, que je commençais de la même manière, un peu... Oui, comme une spectatrice d'une chose très qui te remue et qui te met en mouvement, un peu comme et émotionnellement et physiquement, un peu comme Marina Abramovic. On avait parlé de ça avec Fabien, cette femme qui te regarde et qui te fait pleurer sans raison. Bon, donc voilà, ces œuvres-là agissent un petit peu, ces débuts de spectacle agissent un petit peu de la même manière.
Comment est-ce qu'on se prépare physiquement pour être aussi physique sur scène? Quand vous dansez Clotilde M, est-ce que vous arrivez suffisamment à vous abandonner pour pas être consciente de vous?
Alors là, le moment en tout cas où je peux danser en face de mon omelette, c'est vraiment... Pardon, mais un moment de respiration. Je sais que j'ai que ça à faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles penser en termes de manipulation de la caméra sur scène, de rendez-vous les uns avec les autres. Et là, je sais que le temps de la cuisson, j'ai le temps de lancer, de danser. Et pardon, c'est hyper prosaïque, mais ça me voilà, même épuisée, je sais que je trouve la ressource, parce que ça me fait du bien, et j'adore ce titre qu'on a choisi ensemble, électro. J'ai perdu le titre d'ailleurs, mais que vous pouvez entendre dans la pièce. Venez l'entendre d'ailleurs, comme ça vous saurez.
c'est pas celui-là qu'on a choisi, donc la guiche est parfaite.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Dans Hamlet, que vous jouez en ce moment, Clotilde M, il y a beaucoup de musique. Vous chantez, vous en écoutez. On entend Prince, Sinead O'Connor, Nina Simone. Vous chantez du Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Vous parodiez Star Wars, Je suis ton père. Vous semblez possédé à un moment par une voix d'outre-tombe, comme dans L'Exorciste. En fait, c'est un rôle tragicomique.
Oui,
et votre potentiel comique, il s'est révélé tard.
Oui, c'est vrai. Ouais, en 2017, avec Diane à les épaules. C'est vrai. Oui, on s'amuse beaucoup, et on arrive aussi dans les répétitions avec notre bagage, quoi. Donc, il est fait de tout ça, mon bagage.
C'est quoi votre bagage?
De Gilbert Bécaud à L'Exorciste, en passant par ce titre d'Étienne de Crécy, j'ai retrouvé. Et du fait de faire une omelette, quoi. Enfin, voilà, c'est des propositions qui arrivent pendant les répétitions, pendant les impros. On se demande comme Gilbert Bécaud, oui, arrive plutôt qu'un autre, mais en fait, c'était pour faire référence au fait que on a tous le même âge, parce que c'est ça l'intérêt des fantômes, c'est qu'ils reviennent à l'âge auquel ils ont envie de revenir. Mais j'ai forcément pas du tout, et mes parents dans la pièce, Claudius, et, enfin, mon beau-père et sa nouvelle femme, n'ont pas du tout l'âge d'être mes parents. Et ils écoutent Sinéad O'Connor comme deux ados des années 90. Donc là, je leur demande, mais vous avez quel âge, en fait, en se bécotant? Et je leur chante Gilbert Bécaud, parce que c'est plutôt la référence de mes parents, voire encore plus vieux que mes parents, d'ailleurs. Donc c'est marrant comment ça, d'un canevas très précis, dramaturgiquement, on a réussi à insuffler des choses qui nous appartiennent. Et ça, c'est formidable de pouvoir travailler comme ça, où une metteuse en scène vous dit « Non, mais déthéâtralise, en fait, rapproche-toi de toi. » Et c'est là où on trouve encore plus le théâtre qu'on aime. C'est en enlevant la théâtralité et en collant à ce qu'on est, à notre manière de réagir, de respirer, de rire, de pleurer, de voilà, et que ce soit réel. Alors c'est très engageant, mais il n'y a pas d'autre moyen de faire du théâtre.
Donc cet Hamlet, il vous ressemble, Clotilde?
Oui.
Je vous ai demandé de choisir un morceau de musique et vous avez choisi Prohibition de Brigitte Fontaine.
Ouais.
Pas de commentaire, je l'envoie tout de suite comme un DJ.
Parce que être vieille et libre et révérencieuse, voilà, c'est une grande dame.
Écoutez, je suis un DJ ringard, j'envoie le disque.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole écrite, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin.
Prohibition de Brigitte Fontaine dans Grand Canal sur France Inter. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, Clotilde M. Vous avez choisi l'artiste Anna Mendieta.
Oui, ouais, grande artiste, morte beaucoup trop tôt, mais qu'on ne peut pas réduire uniquement à son passé tragique. Sauf que quand même, on s'est servi de son art pour la faire passer pour suicidaire, alors que c'est un féminicide. Hein,
mais son œuvre est tellement importante, tellement belle. On peut, pour voir son œuvre, aller voir sur la page Instagram d'Eva Kirillov, qui a fait un travail de vulgarisation génial. Et voilà, c'est une créatrice, une très grande créatrice que j'ai découvert grâce à Christiane Jatahi, qui ont fait des références, il y a des références au travail d'Anna Menzietta dans Hamlet. Et c'est une créatrice broyée par la violence du patriarcat et si on l'oublie, voilà, on va la tuer deux fois. Donc, et récemment, enfin.
Elle est morte en défenestrée, mais voilà. On ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre.
Ouais, le monde de l'art a bien protégé son
compagnon artiste.
Son compagnon artiste qui est mort récemment, d'ailleurs en début d'année, à 88 ans. Lui, elle est morte à 36 quand même, dans les années 80. Et j'étais sidérée de voir d'ailleurs que sur la page du Monde qui annonçait donc la mort de Karl Andrés, cet homme disait que sa carrière avait été entachée par la mort brutale de sa femme et les accusations qui avaient été portées contre lui. Donc c'est marrant quand même qu'une, enfin c'est pas marrant du tout, mais voilà, sa carrière a été entachée alors que la carrière d'Anna Mendieta a été brutalement arrêtée par cette dispute du haut du 35e étage d'un immeuble new-yorkais.
Mais dans l'hypothèse, où il ne serait pas capable.
Alors qu'elle était, enfin son entourage dit qu'elle était heureuse, que sa carrière commençait, qu'elle produisait énormément d'œuvres, que mais on sait aussi en tant que femme racisée, elle était victime aussi de tout un imaginaire sexiste et raciste. Elle était d'origine afro-cubaine, son travail était aussi nourri de rituels cubains, de sang, de, enfin il y avait un rapport à la nature. C'était vraiment la première écoféministe aussi qui mettait en lien son art et la nature. Son œuvre est très forte et voilà, il y a une sorte de patriarcat qui s'est bien quand même ligué contre la mise en oui contre les accusations qui ont été portées contre son mari, et c'est pas le premier féminicide ni le dernier, malheureusement.
Et maintenant, toi, Hamlet, mon neveu et mon fils.
Je me vois plutôt comme nièce.
Pourquoi conserver cet air sombre ?
Sombre, monseigneur ? Quand je me tiens si près du soleil !
Hamlet, abandonne ces habits de deuil. Ne reste pas éternellement les yeux baissés à chercher ton noble père dans la poussière. Mais tu connais la loi commune. Tout ce qui vit doit mourir. Passer de la lumière à l'éternité.
Ah ouais, très commune, madame.
Et puisqu'il en est ainsi, alors pourquoi cela te semble si étrange ?
Semble ? Madame, non. Ah non, ça l'est. Semble, je ne sais pas ce que c'est.
On entend l'extrait d'une captation d'Hamlet mise en scène par Christiane Jatahi, création dans laquelle il y a des acteurs portugais, puisque Ophélie est jouée par Isabelle Abreu, Polonius par Tonan Quito, qui parle français et portugais. Et ça me fait me souvenir, Clotilde M., que dans Remède à la mélancolie, il y a près de 10 ans, vos lieux idéaux se trouvaient tous les deux au Portugal. C'était Sintra et Azenias Domar.
Eh oui, c'est vrai.
Oui.
Ah oui. Eh ben, je vais y retourner.
Ben voilà. Il y a beaucoup de voix qui se chevauchent. Il y a des images vidéo fabriquées en direct, d'autres qui semblent déjà tournées. Au début, c'est très impressionnant. On voit une fête de mariage. Vous êtes quelques-uns sur scène, mais en projection, en grandeur réelle, les corps des comédiens apparaissent qui dansent et on dirait que vous êtes des dizaines. Et je me demandais, vous, les comédiens qui êtes de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la même chose que nous ?
On voit inversé. En
d'accord.
Fait, on voit ce que vous voyez,
ça
mais
vous
de manière inversée.
Tous ces mouvements, tous ces fantômes taille grandeur nature.
Non, c'est je pense que c'est un oui, c'est comme tout est dans la tête d'Hamlet, tous ces gens sont présents et le travail de la vidéo est formidable, ouais, c'est impressionnant, la première image du fantôme qui ensuite revient à une échelle plus petite enfin une échelle à l'échelle humaine au fur et à mesure qu'il se déplace, ça me fascine, mais tous les soirs je suis vraiment fascinée par ce que je vois, donc ça ouais ça fonctionne sur la spectatrice que je suis de l'autre côté du tulle, parce qu'il y a un tulle qui nous sépare au début.
Ah voilà, c'est un tulle.
Un tulle, comme dirait Christiane.
Je me demandais ce que c'était, mais c'est très impressionnant, vraiment. Oui. Et on peut tout faire apparaître dessus.
Oui, c'est un écran de projection et à la fois un écran entre nous et c'est qui que je vais arracher comme les voiles de Maya pour pouvoir essayer d'approcher la vérité. Mais bon, même la vérité, quand elle est montrée, elle n'est pas forcément crue. Alors, il faut se battre tous les jours pour essayer de... Parce que par exemple,
tout
c'est
se
l'utilisation.
Rejoint, en fait, Clotilde, là, oui. En fait, vous êtes pareil sur scène, hors scène. Ouais. C'est le même combat.
C'est le même combat. Oui, là, c'est... Oui, c'est la lutte contre la violence qui nous est faite, qu'on a intégrée, qu'on essaye de ne pas reproduire. C'est un combat, oui.
Nous, les femmes.
Nous, les femmes. Alors, c'est écoute, une chanson, ça, non? Vous allez lancer une autre chanson.
Alors,
oui,
je vais lancer vous, le charme. Mais non, je vais lancer une autre femme.
Coltès m'a écrit une lettre en me disant j'ai envie d'écrire pour vous, alors je vous le dis, ça me donne l'occasion de poursuivre et je vous tiendrai au courant. Il m'a tellement tenu au courant que je suis en pleine répétition.
Oui. Lentement.
C'est Jacqueline Maillan, 1988, sur Antenne 2, en pleine répétition du Retour au désert de Coltès, dans la mise en scène de Patrice Chéreau. Clotilde M., vous avez joué le rôle de Fatima dans la même pièce, mise en scène par Thierry de Peretti. Et je crois que vous rêvez de jouer celui que Maillan avait, Mathilde Serpenoise.
Mais oui, ouais. Je pense qu'il est, il est maintenant temps que je joue la mère. J'adore ce rôle de Mathilde. Et ce que ça raconte, elle revient d'Algérie avec ses enfants, elle veut récupérer sa part d'héritage qui lui a été volée, spoliée par son frère qui s'est tout arrogé, on dit. Enfin voilà, qui a tout pris, l'usine, la maison, tout ça. Et puis qu'il avait, enfin il y a énormément de choses dans cette pièce qui m'intéressent. Par rapport au retour du refoulé, au retour du trauma, à la vengeance aussi, à la possibilité ou pas de la vengeance, c'est-à-dire qu'elle a été dénoncée, enfin rasée à la libération sur une fausse dénonciation. Et puis voilà, ouais, il y a tellement de choses dans cette pièce. C'est une pièce monstre et je ne sais pas si j'y arriverai un jour. On y a réfléchi de nouveau avec Thierry Peretti il y a quelques temps. 20 ans après, de créer à nouveau cette pièce, mais voilà, il faut encore qu'on se pose les bonnes questions, je pense.
Cool Thing de Sonic Youth. Clotilde M, c'est le groupe dont vous auriez aimé faire partie. Vous auriez aimé être Kim Gordon, qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album.
Ah bon, j'ai dit ça, je me souviens pas. Mince.
Ouais. Enfin, le nouvel album, c'est moi qui
l'ai
dit.
Ah oui, non, mais ça, oui, d'accord. Non, ça, je l'ai pas dit. T'es pas au courant, mais Sonic Youth, ah ouais, je.
Kim Gordon, non, qu'est-ce que ça vous évoque?
Eh bah ouais, mais. Et bah là, j'ai pas de souvenir là d'ailleurs, non, tout de suite là.
C'était peut-être Enrico Macias et j'ai confondu.
En fait, peut-être parce que moi,
souvent avec Enrico Macias.
Gilbert Bécaud, Enrico Macias.
Non, j'avais prévu de mettre I'm a Man.
Mais c'est
de
chic,
Kim Gordon,
pourquoi pas. C'est peut-être un moment où j'ai voulu être chic.
Et Alice in Chains. Ça, vous aimiez bien.
Ah oui, ça j'aimais bien. Non, ah ouais, non, mais j'aimais bien le.
On écoute un petit extrait.
Oui,
là.
Allez.
Alice in Chains. Ça, vous aviez 15 ans, Clotilde M.
Bah oui, et
ou
puis...
Enrico Macias, je ne sais plus à qui je parle.
Non, mais c'est vrai que j'étais avec un amoureux qui reprenait Pearl Jam, Alice in Chains et tout ça. Et comme moi, je ne connaissais pas, je croyais que c'était lui qui avait écrit tout ça. Je disais, waouh, c'est... En fait, non, c'était que des reprises. Donc, arnaque aussi.
Et en plus, pardon, et moi, je viens de me tromper, c'est même pas Enrico Macias, c'est Julio Iglesias qui chante Vous les femmes.
Oui, merde.
Ah oui, mais je pensais au charme méditerranéen. J'appelle Radiohead à la rescousse. Alors il paraît que l'album que vous avez le plus écouté de votre vie, c'est OK Computer de Radiohead, dont okay. On entend le titre Karmapolis.
Ouais.
C'est vrai ou c'est Julio Iglesias?
Ouais, ouais. C'est toujours Julio Iglesias, mais pour être plus chic, j'ai parlé de Radiohead.
fallait que je sois à la hauteur de ma réputation, vous voyez. Après avoir travaillé avec des grands réalisateurs, tout ça, je pouvais pas citer Julio Iglesias.
Wow.
C'est, ouais, on s'empêche, hein, souvent.
Oui,
ouais.
Alors qu'il est si charmant. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique?
Oui, j'écoute beaucoup de musique. Ouais, ouais, j'écoute beaucoup de musique. Mais avant de jouer Hamlet, là, j'écoute beaucoup Bach.
Et c'est vrai?
C'est que Bach, d'ailleurs.
Pour vous mettre en situation?
C'est Bach, parce que mon père le joue énormément, et voilà, j'ai rendez-vous aussi avec Bach.
Eh ben, on termine avec le fantôme de Bach. Merci beaucoup, Clotilde M.
Merci à vous.
Hamlet, d'après William Shakespeare, mise en scène de Christiane Jataï, est visible jusqu'au 14 avril au Théâtre de l'Odéon, puis sera du 11 au 13 juin au Théâtre National de Villeurbanne et en tournée nationale et internationale. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Clément Vuillet. Et là, dans un instant, vous avez trop de chance puisque vous retrouvez Mishka Assayas pour Very Good Trip, et je crois que c'est Nirvana.
Ah, oh bah j'allais vous faire une surprise, alors là vous
mais m'avez
coupé
tous mes effets. Non mais je lis le journal de Kurt Cobain et j'ai entendu l'autopromo tout à l'heure, juste
bon,
avant
oui,
l'émission.
Oui, c'est vrai, bon, vous êtes pardonné. Alors, oui, c'est ça.
Ce soir, alors qu'est-ce qui se passe avec Kurt?
Il se passe ce que vous avez dit, beaucoup parler, enfin beaucoup écouter surtout. Voilà, c'était il y a 30 ans qu'il est mort. Et oui.
Oh.
Bah ouais, voilà.
Bon, alors à tout à l'heure avec
Kurt. À tout à l'heure, oui.